La barge russe, tous les jours, à 14h, avec Tony Tuvbeck. Barge russe, 1, 2, 3, 4, 12, 34, signe de démence, partielle et déjantée. J'avais plus d'un mois de chronique quotidienne de Barge russe prête et enregistrée. Donc une très longue pause s'est offerte à moi. Cette fois-ci, j'ai tout arrêté. Là, aujourd'hui, nous sommes, jour de l'enregistrement, le 6 mai donc 2025. Cette émission va être diffusée, je pense, le 15 mai. Donc maintenant, j'ai plus qu'une semaine et demie d'avance. Donc j'ai pris quand même une grosse pause. Parce que j'avais 7 semaines d'avance. Après 5 années durant lesquelles j'étais immergé par mes émissions, par le fond de mes émissions, et j'étais sur, bien sûr, la barge russe. Maintenant que le monde s'ébranle, que nous sommes tous conditionnés par les mots et intonations que la musique des assauts du haut modernisme fait de nous son reflet, je me demande ce qu'il nous reste. Car nous sommes tous devenus des moutons. C'est un peu de bruit, ça, je le reviens. Car nous sommes tous devenus des moutons. Sauf les schizos, et ce n'est pas à vous que je parle, mais à ma confrérie sacrée. Seul un schizo peut changer son univers et adapter sa façon de penser. Ils sont ceux qui se posent des questions. Maintenant, on va écouter « A Dream ». A Dream par John Cale avec Lou Reed, bien après le Velvet Underground, you know, mais quand c'était un album hommage à Andy Warhol qui les a vraiment aidés à se lancer du point de vue du Velvet Underground.
It was a very cold, clear fall night. I had a terrible dream. Billy Name and Bridget were playing under my staircase on the second floor about 2 o'clock in the morning. I woke up because Amos and Archie had started barking. That made me very angry because I wasn't feeling well, and I told them. I was very cross, the real me, that they just better remember what happened to Sam the bad cat that was left at home and got sick and went to pussy heaven. It was a very cold, clear fall night. Some snowflakes were falling. Gee, it was so beautiful. And so I went to get my camera to take some pictures. Then I was taking the pictures, but the exposure thing wasn't right, and I was going to call Fred or Jerry to find out how to set it. Oh, it was too late. And then I remembered they were still probably at dinner, and anyway, I felt really bad. Didn't want to talk to anybody. But the snowflakes were so beautiful and real-looking, and I really wanted to hold them. And that's when I heard the voices from down the hall near the stairs. So I got a flashlight. And I was scared and went out into the hallway. There's been all kinds of trouble lately in the neighborhood. Someone's got to bring home the bacon. Anyway, there were Bridget and Billy playing. And under the staircase was a little meadow, sort of like the park at 23rd Street, where all the young kids go and play frisbee. Gee, that must be fun. Maybe we should do an article on that in the magazine. But they'll just tell me I'm stupid and it won't sell. But I'll hold my ground this time. I mean, it's my magazine, isn't it? So I was thinking that as the snowflakes fell and I heard these voices having so much fun, gee, it'd be so great to have some fun. So I called Billy, but either he didn't hear me or he didn't want to answer, which was so strange because even if I don't like reunions, I've always loved Billy. I'm so glad he's working. I mean, it's different than Ondine. He keeps touring with those movies and he doesn't even pay us in film. I mean, the film's just going to disintegrate and then what? I mean, he's so normal off of drugs, I just don't get it. And then I saw John Cale. He's been looking really great. He's been coming by the office to exercise with me. Ronnie said I have a muscle, but he's been really mean since he went to AA. I mean, what does it mean when you give up drinking and then you're still so mean? He says I'm being lazy, but I'm not. I just can't find any ideas. I mean, I'm just not, let's face it, going to get any ideas up at the office. And seeing John made me think of the Velvets, and I'd been thinking about them when I was on St. Mark's Place, going to that new gallery those sweet new kids have opened. But they thought I was old, and then I saw the old Dom, the old club where we did our first shows. It was so great. I don't understand about that Velvets' first album. I did the cover, I was the producer, and I always see a free package, and I've never gotten a penny from him. How could that be? I should call Henry. But it was good seeing John. I did a cover for him, but I did it in black and white, and he changed it to color. It would have been worth more if he left it my way, but you can never tell anybody anything. I've learned that. I tried calling again to Billy and John. They wouldn't recognize me. It was like I wasn't there. Why won't they let me in? And then I saw Lou. I'm so mad at him. Lou Reed got married and didn't invite me. I mean, is it because he thought I'd bring too many people? I don't get it. Could have at least called. I mean, he's doing so great. Why doesn't he call me? I saw him at the MTV show. He was one row away and he didn't even say hello. You know, I hate Lou. I really do. He wouldn't even hire us for his videos. And I was so proud. I was so scared today. There's blood leaking through my shirt from those old scars from being shot. And the corset I wear to keep my insides in was hurting. I did 3 sets of 15 push-ups, 4 sets of 10 sit-ups. And then my insides hurt, and there's some drops of blood in my shirt, and I remember the doctors saying I was dead. And then later they had to take blood out of my hand because they ran out of veins. But then all this thinking was making me an old grouch, and you can't do anything anyway, so they wouldn't let me play with them. Just going to have to make up another and another and another. Gee, wouldn't it just be so funny if I died in this dream before I could make another one up? And nobody called.
Preuves historiques et littéraires amassées durant 5 années, enfin massivement du moins, suffisent pour un extraterrestre. Écoutez-moi bien. Me suffisent pour annoncer à ma confrérie sacrée, comme je vous le disais avant le morceau, que le monde est déjà mort et renaît. Sauf si on ne le veut pas. Si on ne veut pas qu'il réapparaisse, il reste mort, le monde. Si on ne veut pas faire quelque chose... Bon, je ne vais pas vous faire 36 dessins. Thank you. à ma confrérie sacrée. Chers confrères, dans l'intérieur, de l'intérieur, vous succédez par alternance ou apparaissez en simultané. Donc, que vous dire que vous ne sachiez déjà ? Ou alors, vous désirez me faire prendre conscience, car vous savez déjà tout. Mais il est normal, je comprends, que vous, vous désiriez, vous ayez besoin que je prenne conscience de différentes choses qui sont d'ailleurs dans l'inconscient, dans mon inconscient, dans lequel, chers confrères, vous êtes liés. Lors du deuxième cycle des barges russes, au moment où j'ai commencé à parler du côté invisible, parce que je me disais, ouais, les auditeurs, consciemment, je disais, les auditeurs ne vont pas être prêts, mais je me suis dit, mais je ne fais pas ça pour les auditeurs, je fais ça pour moi, donc pour ma confrérie. Donc, j'ai commencé à parler du côté invisible, chers confrères, et je m'étais juré de ne pas parler de la schizophrénie, de ma schizophrénie non clinique, laquelle j'avais déjà abordé dans mon introspection riche et profonde que j'ai commencé à écrire dans ma vingtaine. Puis, à l'université, c'était avant les quotidiennes, avant que je ne présente les barges russes, puis à l'université, je fais lire un de mes écrits, un de mes textes à un prof, je me rappelle, c'était Monsieur Gnassounou, un prof, philosophie du langage, qui me parle tout de suite de Gilles Deleuze, que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler de Gilles Deleuze. Et j'en ai reparlé à un copain, à un ami, après un concert, d'ailleurs, on prenait un verre après un concert, et je lui parle de ce qui m'est arrivé avec ce prof. Et il me dit, cher confrère, écoutez-moi bien, Gilles Deleuze, tu connais ? On m'a dit que ce que j'écrivais était Gilles Deleuze. Et mon pote connaissait, c'est un psy. Et il dit, ah ouais, Gilles Deleuze, et toi qui adore William Burroughs, parce que j'étais dans une grosse phase avec William Burroughs, il me dit, il a écrit un truc sur William Burroughs, ça s'appelle Pour parler. Gilles Deleuze parle de William Burroughs dans Pour parler. Donc comme j'étais à fond dans William Burroughs, j'achète et je lis. Putain, il dit, waouh, Gilles Deleuze. Je commençais à arriver au bout de William Burroughs, et donc là, à partir de ce moment-là, j'ai attaqué Gilles Deleuze. Enfin, j'ai commencé la lecture. Donc, notamment par des ouvrages comme Capitalisme et schizophrénie, 1 et 2, donc Anti-Oedipe et Mille Plateaux. Mais bon, ensuite, toujours, ensuite, on me fait rencontrer Richard Pinas. Richard Pinas, que bon, je connaissais, un schizo notoire, mais je ne connaissais pas plus que ça à l'époque, que je connaissais pour son morceau Le Voyageur, enregistré avec Gilles Deleuze. Tout ceci, comme je vous le disais, m'est arrivé avant les chroniques Barges Russes, avant le Covid. C'est à partir du Covid que j'ai eu la chance de pouvoir présenter des émissions quotidiennement. J'en ai parlé, donc j'ai commencé à parler de la schizophrénie non clinique suite à des signes que j'ai reçus. Déjà du côté invisible, j'ai mis du temps à en parler. Je m'en rappelle très bien. Ensuite, j'ai mis du temps avant de parler du côté invisible. Je voulais pas. C'était un peu mon jardin secret. Je savais pas comment en parler et tout. Donc, je parlais de l'actualité. J'essayais de dire machin, un truc. Puis un jour, ça m'a pris la tête. Et puis, je me suis dit, bah non, de toute façon, tout ça n'arrive pas par hasard. Et tout en découle, quoi. Donc, j'en ai parlé suite à des signes que j'ai reçus par des chemins éclairés, de trouvailles, de lectures imprévues. Et des rencontres aussi, avec certaines personnes, des érudits. C'est donc à ces instants que la littéra apparaît. La littéra, je l'ai rencontrée dans la bibliothèque universitaire. Lorsque je prolongeais mes yeux, longeais les étagères de livres. Je me suis dit, waouh. Et là, j'avais le cœur qui battait. Et la littéra, suite à tout ça, une drogue qui est un comburant de l'instant et de l'inspiration, me montre à chaque fois être sur la bonne voie, car j'en prends toujours de la littéra, bien sûr. Elle me montre être donc sur la bonne voie. J'en sniffe jusqu'en intraveineuse. Et ça, quand là, je suis ressorti un peu de l'intraveineuse pour cette longue pause que j'ai faite, parce que c'est quand même assez fatigant. Et je suis content d'avoir fait cette longue pause. Vous savez aussi peut-être que Jet FM traverse un moment difficile en ce moment. Donc, moi, j'ai pas de recette. Hein. J'ai pas de recette pour. D'ailleurs, je suis pas dans le comité, je sais pas dans le truc administratif là. Je sais pas du tout comment faire. Et j'ai pas de pouvoir magique, quoi. Pour finir cette émission, on a écouté Paraphrenia Praecox de 1970 de Richard Pinas et son premier groupe Schizo, enfin son deuxième. Et Paraphrenia Praecox, ça veut dire démence précoce. Et c'est l'ancêtre de la schizophrénie. Parce que oui, Richard Pinas, donc j'ai fait le pont sans expliquer forcément, mais Richard Pinas était un proche de Gilles Deleuze. C'est pour ça. C'est très intéressant. Il y a des signes qui se proposent à toi, qui te disent, mais t'es sur la bonne voie, continue. J'ai vu, d'ailleurs, ce single. Je savais, tu sais, le single jaune avec des lèvres qui sont sur une espèce de pic qui représente la schizophrénie, en fait, qui parle. Et j'ai vu, l'autre jour, j'étais voir Richard Pinas, et j'ai vu ce single, précisément. J'ai vu ce single dans la chambre de Pinas, Richard Pinas, juste avant qu'il ne me laisse feuilleter ses livres. Et là, mon pote, waouh. Parce qu'avant, quand j'allais chez lui, je regardais ses livres, j'en prenais tout de suite, il m'engueulait, il me disait « Ah non, tu touches pas mes livres et tout !» Et là, il m'a laissé les regarder, j'étais hyper content. Et là donc j'ai feuilleté, c'était assez précis ce que je voulais, c'était les écrits posthumes de Friedrich Nietzsche. Et waouh, c'est incroyable.
Bonjour, je vous emmène dans l'existence probable. Et surtout inouïe, de la réalité invisible, contre laquelle la société, qui rend ses membres fous de manière conditionnée, se lève par le vecteur de sensation de contrôler quelque chose. Je vous donne rendez-vous dans la dimension invisible.
Must have been unconscious most